France Musique.
Chers auditeurs, je dois vous le dire, c'est un triste jour pour France Musique. Ce matin, en effet, on a appris la disparition de Dominique Jameux, qui fut, beaucoup d'entre vous s'en souviendront, un formidable homme de radio sur cette antenne pendant plus de 30 ans. Dominique Jameux était un personnage sévère, oui, sourcilleux parfois, exigeant avec les autres comme avec lui-même. Et pourtant, lorsqu'on écoutait ses émissions, Il était une fois, dont on entend là le générique, ou Le fauteuil de Monsieur Dimanche, titre fantastique, soit dit en passant, on avait toujours la sensation, en écoutant ses émissions, d'une fantaisie, d'une fête de l'intelligence. Au fond, la vérité des œuvres semblait peu l'occuper. Ce qu'il faisait, magnifiquement, c'était de les ouvrir, ses œuvres, les unes sur les autres, déployer en elles des trésors de signification, les faire miroiter avec une culture qui embrassait à la fois musique, théâtre, cinéma, littérature. Il était capable de nous faire croire que tel film de Bergman, mettons Un été avec Monica, devait tout à tel ballet de Ravel, mettons Daphnis et Chloé, ce qui est absurde. Et le pire, c'est que pendant une heure ou deux, porté par sa voix et son savoir chatoyant, le pire c'est qu'on y croyait. Dominique est l'un des rares parmi nous à avoir su inventer une forme radiophonique, originale et spécifique, avec une manière d'articuler la musique et les mots qui renvoyaient loin aux abysses de la médiocrité les insondables disputes sur le temps de parole. Espérons que France Musique, où l'on sait mesurer la vraie valeur des choses, rediffusera dans les jours qui viennent l'une de ces émissions, histoire d'entendre comment se tisse certains jours, chez certains d'entre nous, une vraie poésie de la parole. Pas pour le plaisir facile de dire « c'était mieux avant », mais parce que quand même, avant, avec certains, ça avait une sacrée gueule. Il était aussi écrivain, Dominique Jameux, avec des ouvrages sur l'école de Vienne, Richard Strauss, mais aussi Pierre Boulez ou Fausto Coppi. Oui, Boulez et Coppi. Et puis, il y a quelques mois à peine, sur Chopin, il était venu m'en parler à ce micro, toujours une magnifique intensité, toujours cet humour et cet esprit qui n'appartenait qu'à lui.
Je ne voulais pas faire de discographie, c'est une tâche impossible.
Il y en a trop.
Au temps où je parlais dans ce micro, comme tout le monde, j'ai tenté de faire des choses comme ça. Ça me semble sans espoir. J'ai pas du tout envie d'écouter 433 fois la quatrième ballade que j'aime beaucoup pour décider. Dieu sait comment et pourquoi, quelle est la meilleure, quelle est celle qu'il faut retenir. Donc, j'ai choisi 7 pianistes qui me sont très chers dans Chopin, qui sont pour une part des amis à moi, d'aujourd'hui, donc relativement, enfin, très relativement jeune, tout au moins, un peu moins âgé que moi. Mais bon, voilà, c'est un choix, c'est très très subjectif. Mon livre, de toute façon, est très subjectif, bon. Il est très critiquable. Heureusement que je ne suis pas en situation de devoir critiquer mon livre, parce que
ce serait... Vous seriez dur?
Ça pourrait être féroce de temps en temps.
Pourquoi?
À
quels endroits?
Ça, je vous le dirai pas. Trouvez-le. non. Bon, là, c'est un peu de la coquetterie, si vous l'aimez. J'aime beaucoup ce livre, et il résulte de ce que je voulais écrire sur Chopin, donc parfaitement. Mais sur Chopin, c'est très difficile, c'est un sujet très difficile. On croit connaître, on croit que tout est clair, on croit que sa vie est transparente, parce que les gens en ont beaucoup parlé, et ce n'est pas vrai. On ne connaît rien, on ne connaît pas la vie, il y a plein de détails de la vie qu'on ne connaît pas, on se trompe sur des dates, parfois des dates tout à fait simples, sur lesquelles on recopie de livre en livre les erreurs. Mais effectivement, c'est pas un livre très dogmatique, enfin j'espère que non. C'est un essai, c'est une interprétation très personnelle. J'accepte très très volontiers d'être contesté sur de tel ou tel point, mais c'est mon Chopin à moi, voilà.
C'était la 12e valse de Frédéric Chopin sous les doigts d'Aldo Ciccolini, que j'ai choisi bien sûr pour Chopin, que j'ai choisi aussi pour Aldo Ciccolini, qui était le maître de musique de Dominique Jameux, ce dernier qui vient de disparaître donc à l'âge de 76 ans. Vous écoutez France Musique, il est midi 8 avec juste un peu de retard. On prend un casque presque normal puisque nous sommes vendredi. Générique. Le casque et l'enclume. Bienvenue à tous dans notre séance critique. La dernière de cette saison, nous repartirons sous une autre forme la saison prochaine. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il faut garder le mystère de l'été avant la saison 2015-2016 dont vous saurez tout dans pas longtemps. Rassurez-vous. Mais enfin, le dernier casque repéré comme tel dans une circonstance un peu particulière qui est cette transition entre l'été et les grilles qui arrivent là. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Bah pas grand-chose côté concert. Donc du coup, j'ai demandé à mes invités d'amener des coups de cœur, ce qu'ils ont fait avec grand plaisir côté disque, puis même côté spectacle pour certains d'entre les invités du jour. Donc, Rémi Louis de Diapason, Benoît Fauché de l'AFP et Richard Marté d'Opéra Magazine. C'est vous, Richard, qui allez commencer. Vous êtes allé voir ce qui était, je crois, le spectacle de la semaine quand même, puisque Callisto Beito, celui qui fait tout sur scène, qui fait baiser les gens sur scène, qui leur fait faire caca sur scène, enfin la totale, Monte Puccini.
Pas en même temps.
Il est capable de tout, cet homme-là. Et Turandot à l'Opéra de Toulouse, au Théâtre du Capitole. Vous êtes allé voir ça. Est-ce que c'était aussi explosif qu'on pouvait l'attendre?
Non.
Ah.
Alors, vous savez, je vais vous surprendre. Eh bien, on va parler musique. Tiens. Parce que c'était une très grande représentation sur le plan musical, avec quand même le Capitole de Toulouse, un orchestre, l'Orchestre National du Capitole, exceptionnel. Bon, il est exceptionnel en symphonique, mais alors en orchestre de fosse, c'est vraiment le top. Ouais. C'est un des trois meilleurs en France à l'heure actuelle. Les chœurs, et là, je rends hommage au chef des chœurs qui s'appelle Alfonso Cagliani sur cette antenne, parce que vraiment, chapeau, c'était d'un niveau, mais grand niveau international, et dans Turandot, vous le savez, orchestre et chœur, ça compte quand même. Un chef que je ne connaissais pas, qui est suédois, qui s'appelle Stefan Solium, qui a mené ça de manière avec beaucoup de dramatisme, beaucoup de sensualité. C'était formidable, une distribution claironnante. Et Elisabeth et Matos, Alfred Kim, croyez-moi, ça y allait sur les contrutes. Mais tonitruant. Bon, le public était dans l'extase. Franchement, il y avait de quoi. Qu'est-ce que ça klaxonnait, quoi. Donc, au-dessus du cœur et tout, c'était très excitant. Bon, moi, j'aime bien les calafs un peu plus séduisants, un peu moins claironnants, peut-être. Mais chapeau, quoi. Elle, lui, le couple Calaf-Turandot était électrisant. Une magnifique lieu qui s'appelle Irina Kamura, qui vient de la troupe du Staatsoper de Munich. Tous les autres, Timur, Altum, tous les autres impeccables. Une grande soirée musicale. Et je tenais à commencer par ça. La mise en scène, qu'est-ce que vous voulez?
Ah, bon.
Vous savez, Callisto Beito, c'est le meilleur, oui, ou le pire. L'or n'est au milieu. Rien n'était scandaleux. Ça baisait pas, ça faisait pas caca. Ça faisait pas grand chose d'ailleurs, honnêtement. Moi, ce qui m'a énormément gêné, c'est qu'il raconte une autre histoire. Ouais. Ça y est, ce qui l'intéresse dans Turandot, très clairement, c'est l'oppression des masses, la manipulation des masses, la violence omniprésente, y compris sexuelle. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que il situe ça dans l'entrepôt d'une usine en Chine, je pense, où l'on fabrique des poupées pour le marché occidental.
Ah bon?
Turandot, c'est la patronne de l'entreprise.
Et ah bon, elle est quand même du côté empire du milieu.
Elle,
quoi,
voilà, hein, elle est complètement sadique. Et avec ses trois ministres ping-pong-pong, elle fait régner la terreur jusqu'à la torture physique. D'accord. Sur ses employés qui bougent comme des pantins, quoi.
Donc on comprend. Sur le principe, ça peut.
Voilà, sur le principe, why not? Il y a ça dans Turandot aussi. Mmh. Là où on ne comprend plus rien, c'est que Calaf, il n'est pas du tout amoureux de Turandot. Mmh. C'est-à-dire, s'il répond aux énigmes, c'est pour obtenir la libération de ses petits camarades, pour échapper à la domination de la princesse. Donc du coup, on ne comprend. Enfin, c'est pas qu'on comprend rien. C'est pas ça, Turandot.
C'est pas la lutte des
classes. Qui voglio tout ardente d'amour. Il le dit. Je te veux tout ardente d'amour. Calaf, il a qu'une envie, c'est lui sauter dessus. Et là, on comprend pas ça du tout. Il la regarde jamais. Et c'est à Lio qu'il dit, dis-moi mon nom. C'est-à-dire donc une des articulations principales du livret qui est chercher son nom, c'est pas Turandot. Donc il le dit, c'est Alioune. Donc du coup, ce qui était très intéressant et très bizarre à la fois, c'est que la représentation devait se terminer après la mort de Liu, c'est-à-dire là où Puccini a cessé de composer, comme à la création quand Toscanini avait poussé sa baguette. À Nuremberg, c'était une coproduction avec Nuremberg, ça s'était fait comme ça, et c'était une excellente idée. À Toulouse, je ne sais pas pourquoi, on a demandé à Bieito de rajouter le final d'Alfano, qu'il a traité en version de concert et qui tombait sur un cheveu sur la soupe.
Bon. D'accord. Mise en scène, on la met donc de côté. En revanche, musicalement, vous nous l'avez dit,
c'était
super.
C'était exceptionnel.
Et on s'étonne pas de cela, parce que le Théâtre du Capitole de Toulouse, quand même, peut faire aussi de très, très grands spectacles.
Et hein, alors, vraiment. En plus, dans ce répertoire, c'est vraiment, avec un chœur, un orchestre comme ça, c'est le top.
Turandot de Puccini, c'était à Toulouse, et Richard Marté a aimé. On va laisser la parole au tempétueux Benoît Fauché. Hear My Prayer, O Lord, un anthem de Henry Purcell qui referme le dernier disque de l'ensemble La Tempête. À la direction Simon-Pierre Bestion, ce disque-là, on en a parlé dans cette émission puisque le chef était mon invité justement à votre place il n'y a pas deux mois, Benoît Fauché. Ce disque sous le titre La Tempête est paru chez Alpha et si vous l'avez choisi, c'est qu'il est très beau en effet.
Oui, c'est très bien fait, c'est une heureuse découverte. C'est un ensemble que je ne connaissais pas et pour cause, je crois que c'est sa première œuvre, c'est le lancement de cet ensemble qui est en fait la réunion d'un chœur et d'un ensemble sur instruments anciens qui préexistait depuis quelques années de manière, il faut bien le dire, assez confidentielle. Et Simon-Pierre Bestion, le jeune chef, hein, puisqu'il est né en 88, c'est un tout jeune, s'est dit, voilà, je vais essayer de construire un ensemble autour de projets. Et donc finalement, cet ensemble qui réunit donc ce chœur et cet orchestre a pris le nom du premier projet qu'il mène, La Tempête. Donc c'est évidemment... D'après la pièce de Shakespeare, la tragicomédie, l'idée c'est de proposer un espèce de une couture entre des œuvres beaucoup de musique anglaise. Il peut y avoir aussi du Frank Martin, les Shakespeare songs. Il y a du Thierry Pécou, etc. Donc c'est un agencement assez étrange qu'il fallait réussir à assumer. Mais j'ai envie de dire les coutures, on les voit quasiment pas. Les atmosphères sont relativement homogènes. Il y a donc le fil rouge de la danse qui traverse un peu tout ça. C'est très bien fait. On voit qu'il y a un travail vraiment de grande précision sur l'image du chœur, sur la couleur des instruments anciens. Et puis, ça nous raconte voilà toute cette humanité qui se révèle dans la pièce de Shakespeare autour de cette île et de l'étrangeté. Et voilà, on a envie de souhaiter... Longue vie à cet ensemble qui me fait un peu penser à un ensemble comme ça qui cherche des choses, qui teste des choses. Je pense au balcon de Maxime Pascal. Alors j'espère qu'il aura autant de succès que le bascon, que le balcon.
Que le bastion, oui.
Il est nantais, lui. Il est pas bascon. Hein. Mais on lui souhaite. Mais en tout cas, je vois. J'ai envie de suivre un ensemble comme ça qui tente des choses, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ouais.
Mais deux autres messieurs du jour, vous l'aviez pas eu ce disque-là.
Et non, je n'ai pas entendu.
Mais à l'audition, comme ça,
c'est bien. Mais à l'audition, ça paraît absolument magnifique.
Ouais, je confirme. C'est un très beau disque. La tempête, donc, c'est pour l'ensemble et pour le programme, Simon-Pierre Bastion à la baguette, et c'est paru chez Alpha.
France Musique.
Alors pour cette dernière du casque, chacun amène ses coffrets de disques. Benoît Fouché, qui est un feignant, m'amène La Tempête, un petit disque normal. Et puis Rémi Louis, qui lui est un costaud, m'amène un énorme machin. Enfin énorme, j'exagère, mais ça a l'air très beau en tout cas. Il y a de quoi lire dedans et de quoi entendre. C'est Schubert par Nicolaus Arnoncourt avec le Philharmonique de Berlin. Alors des enregistrements qui remontent à une bonne douzaine d'années. Racontez-moi ça, parce que Schubert-Arnoncourt, c'est quand même un couple qui marche depuis assez longtemps, hein, Rémi Louis.
Oui, absolument, puisque le Schubert a été le premier disque de Arnoncourt en dehors du répertoire où on avait pris évidemment l'habitude de l'admirer et de le connaître, par exemple Monteverdi et Bach. Et il a fait un premier disque, Schubert, il y a 30 ans quasiment, avec l'Orchestre Symphonique de Vienne, où il avait la symphonie inachevée. Et très vite, finalement, on a suivi la première intégrale des symphonies de Schubert en 1993, autour de 1993, avec le Concertgebouw d'Amsterdam, qui a été l'un des premiers orchestres à l'inviter justement pour diriger le grand répertoire classico-romantique. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure de la carrière Arnoncourt, eh bien que Schubert, on le prononce à la française évidemment, il faut dire Schubert, mais est vraiment probablement l'un des compositeurs les plus proches de lui, sinon peut-être même le désormais.
Vous le dire affectivement, c'est
proche.
Ça
oui, ouais. oui. Aussi en termes de culture, c'est-à-dire l'intérêt de la manière dont Arnoncourt a évolué à partir du moment où il est allé effectivement dans le grand répertoire et jusqu'à un certain 20e siècle, puisqu'il y a à la fois Bartok et Gershwin, hein, ne l'oublions pas quand même, c'est que finalement il s'est réintégré peu à peu lui-même, et on a envie de dire, mais en fait il n'en était pas sorti lui-même en conscience personnelle, dans une espèce de tradition, avec des guillemets, ou de transmission de l'interprétation de la musique austro-allemande. Sachant qu'évidemment son énorme apport, et c'est encore une fois le cas dans l'intégrale Schubert, c'est bien sûr le retour aux sources.
Ouais.
C'est bien sûr une grille de lecture qui est extrêmement analytique. Savoir quel est le premier jet d'une partition, savoir quelle est la première édition, mais s'intéresser néanmoins à partir de ce moment-là de la création des œuvres à comment elles évoluent, comment elles sont entreprises par les uns et les autres. Alors évidemment, c'est même presque curieux aujourd'hui de le voir faire cette intégrale Schubert, non pas avec le Philharmonie de Vienne, mais avec le Philharmonie de Berlin. C'est un enregistrement entre 2003 et 2006. Parce que tout d'un coup, on pense qu'il y a une intégrale Schubert, et même deux, avec Berlin, l'une étant Böhm et l'autre Karajan.
Ce qui est quand même pas rien.
Et c'est quand même pas rien. Et en fait, c'est intéressant parce que tout d'un coup, s'agissant de deux chefs avec lesquels lui-même a joué, il apporte évidemment quelque chose.
Du temps où il était
neuf,
instrumentiste, il faut préciser.
Du temps où il était
instrumentiste
dans le Symphonique de Vienne. Et Karajan l'avait profondément impressionné parce qu'il a eu les 10 ans de Karajan, il était dans l'orchestre. Ouais. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que il y a un rapport, un effet d'aller-retour comme une espèce de retour aux sources, et en même temps il y a toute la modernité de son regard. Et ça, sur le plan à la fois esthétique, philosophique, et pour ce qui est de la culture sonore, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, et à mon avis d'une certaine manière beaucoup plus abouti ou profond ou conséquent que ce qu'il avait fait avec Amsterdam.
On va l'écouter ici, dans votre choix, hein, Rémi, c'est le scherzo de la
première
symphonie.
Le menuet de la première
menuet,
symphonie.
Oui, c'est ça. C'est
presque parce que vous allez voir que les racines haydniennes sont encore là.
Plus importantes que celles de Ludwig.
Thank you.
Le menuet de la première symphonie de Franz Schubert, Nicolaus Harnoncourt, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin sur ce coffret livre et disque, où on retrouvera donc les 8 symphonies de Schubert, ainsi que 2 messes, et puis l'opéra Alfonso et Estrella, toujours dirigé par Harnoncourt, des concerts publics depuis 2003. Commentaire sur ce qu'on vient d'entendre encore, Rémi Louis sur...
Oui, c'est, il y a chez Harnoncourt quelque chose qui est à la fois plaisant, agaçant, qui pose question, mais qui ne nous laisse jamais indifférent, c'est la grille de lecture, littéralement. Alors, j'ai choisi là le menuet de la première symphonie, mais en fait, sur la quasi-totalité des symphonies de jeunesse, il y a cette grille de lecture, cette opposition extrêmement franche, évidemment, entre le menuet lui-même et le trio, et cette manière, mais alors pour le coup complètement unique, d'aborder juste la première respiration du trio. On l'a entendu dans la première symphonie, ce serait la même chose dans la quatrième, dans la troisième, dans la sixième. Donc il y a toujours cette espèce d'approche qui est, encore une fois, je tiens à ce mot, très conséquente, très volontaire, un peu combative. Je faisais allusion à l'intégrale qui est célèbre, celle de Böhm. Böhm est beaucoup plus relaxé. Il était beaucoup plus âgé d'ailleurs quand il a fait ça. Mais là, chez Harnoncourt, il y a un côté « je veux montrer que ces œuvres sont plus importantes et plus ouvertes sur quelque chose qui va venir que ce qu'on croit usuellement ». Et ça, c'est évidemment absolument passionnant. Sur la longueur.
Schubert par Harnoncourt, si on veut trouver ce coffret-là, on ira sur le site du Philharmonique de Berlin, hein, parce que c'est l'autoproduction, on va dire, de l'orchestre lui-même. Hein, donc il suffit d'aller sur le site et de commander, on vous envoie ça à la maison, toutes affaires cessantes. Pas besoin d'aller sur aucun site, enfin on fait comme on veut, mais ça doit se trouver dans plein de discothèques aussi, ce coffret Renato Bruzzone, choix de Richard Marté, mais on a vu ça 15 fois, Richard, non ce disque-là, je me trompe?
Jamais.
Jamais.
Première en CD.
Mais vous m'avez dit que vous le connaissiez par cœur, ce
machin-là. Parce que j'avais le 33 tours.
Un de
mes 33 tours chéris que j'avais ramené, que j'ai toujours... C'est la première fois qu'il sort en CD, enregistré en 1977, ce disque. Ouais. Et jamais sorti en CD, absolument jamais, pour une raison qui m'échappe. Parce que Bruzzone, c'est quand même pas n'importe qui dans le panorama des barytons italiens et même mondiaux. Et son plus grand disque est de très loin, entièrement consacré à Donizetti, avec orchestre. Ouais. Que des airs d'opéra de Donizetti, certains assez rares. Faire un air de Marino Faliero en 1977, même encore aujourd'hui, c'est quand même pas le Donizetti qu'on voit le plus souvent. C'est la définition du baryton Donizetti. Vous savez, on parle beaucoup de baryton Verdi, le Helden baryton à l'allemande. Renato Bruzzone, c'est l'incarnation du baryton Donizetti, donc juste avant l'avènement de Verdi. Et il fait ça comme personne. Avant lui, sans doute si, on a des témoignages de Mattia Battistini qui sont aussi bien au début du XXe siècle, mais beaucoup moins. Mais depuis, on n'a jamais réentendu ça. C'est une question de couleur de voix, une question de style, une question de phrasé, une question de diction. Il était fait pour chanter Marino Faliero, Don Sébastien, Gemma di Vergi, Caterina Cornaro, il est formidable.
Il n'était pas fait pour chanter que ça, quand même, rassurez-moi.
Non, ça a été un immense baryton verdien, mais je pense que l'essentiel, le plus important, il y avait d'autres grands barytons verdiens, Milns Cappuccilli, même à la même époque que lui, mais ce qui restera pour moi dans l'histoire du disque, et même dans l'histoire de l'interprétation de Renato Bruzzone, c'est sa manière de chanter Donizetti. Il a fait des intégrales d'opéra, pas beaucoup, d'ailleurs. Mais là, ce disque d'extrait d'opéra uniquement consacré à Donizetti est absolument, pour moi, historique.
Historique et puis l'extase personnelle, j'ai l'impression. Parce
Vous l'avez
six fois avant de venir. Hein.
Mais j'en rêvais qu'il soit réédité. Je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas. Il est donc réédité dans cette collection qui s'appelle The Most Wanted Recitals de Decca. Les récitals dont on a le plus envie. Alors, c'est inégal. Il y en a dans la collection, ce n'est pas ceux dont j'avais forcément envie, notamment ceux du redoutable Fernando Corena, qui a beaucoup fait pour Decca et hélas, que des mauvais disques. Mais quand c'est au niveau de Bruzzone dans Donizetti, ça c'est exceptionnel et c'est un disque que tout le monde doit posséder.
Et qu'est-ce qu'on entend là? Quel extrait vous avez choisi?
Marine Faliero, justement. D'accord. Cet opéra de Donizetti créé à Paris en 1835.
Di Venezia anch'io.
Un extrait de Marin Faliero, opéra de Donizetti, chanté ici par Renato Bruzzone, 1977, à Turin, sous la direction de Bruno Martinotti. Ça paraît donc chez Decca, ce disque-là. Richard Martin en pleine extase, Benoît Fauché qui regardait ailleurs. C'est pas votre truc, Donizetti, j'ai l'impression, hein.
Non, non, c'est pas trop mon répertoire, mais enfin, c'est vrai que là, il y a quand même une voix. Enfin, il y a un styliste indéniable. J'aurais un peu de mal à écouter ça sur la durée, mais bon.
Mais oui, non, mais puis il y a le sens de la ligne, quand même, qui est fort, hein, Richard.
Ça, bah, le legato est exemplaire. Puis cette façon de conduire, tenir toujours sous contrôle le chant, aucun relâchement, beaucoup de sobriété, pas d'effet supplémentaire. Un formidable styliste.
France Musique. La fondation Louis Vuitton s'est ouverte depuis moins d'un an à Paris, hein, côté jardin d'acclimatation. Il y a évidemment le bâtiment de Franck Guéry, il y a évidemment les collections à l'intérieur de monsieur. C'est lequel déjà? Je me confonds toujours entre Pinault et Arnaud, moi je ne sais jamais.
C'est Arnaud là.
Là c'est Arnaud, pardon.
Attention.
Oui, oui, non, c'est pour ça que je fais exprès en fait. Et donc vous y étiez il y a quelques jours, enfin juste là, Benoît, parce qu'il y a aussi un auditorium dans cette fondation qui fait 350 places à peu près. Et Seiji Ozawa, qui venait là pourquoi d'ailleurs, Seiji?
Eh ben, il venait là avec l'académie de quatuor et d'orchestre en fait qu'il anime à côté de Genève. Seiji Ozawa a vraiment le goût, la joie, la passion de la transmission et de la pédagogie. Et puis il fait pas ça sur ses vieilles heures, j'ai envie de dire, en disant bah il faut bien que je m'occupe. C'est vraiment il fait ça parce que pour lui c'est aussi fondamental que te donner un concert à la Philharmonie ou au Théâtre des Champs-Élysées, c'est aussi important. Il est là pour transmettre un art et pour, faire de la pédagogie, c'est-à-dire marcher avec, c'est quasiment ça, un certain nombre de musiciens. Et là, finalement, on a entendu à Louis Vuitton ce qu'on peut entendre un certain nombre de fois dans cette fondation qui a pris le pari, je trouve plutôt intelligent, de faire des choses que les autres salles de concert ne font pas. Le but n'est pas de faire une saison de concert classique, ça n'a aucun sens. Les salles de concert à Paris, les nouvelles salles même, on commence à bien connaître, il n'y a pas de problème, on en a assez. Là, l'idée, c'est de faire peut-être une autre programmation, non pas une contre-programmation, mais des choses un peu différentes avec des masterclass, des résidences. Et là, un ensemble de répétitions publiques et de concerts, Seiji Ozawa venant avec son académie, qui sont donc des musiciens de quatuor, ils sont 27 recrutés sur le plan international. Donc on les entend d'abord en quatuor, il y avait 6 quatuors différents, hein, Beethoven, Weber, etc. Et après, on les entend donc en formation orchestre à cordes, hein, sur la base des quatuors. Et c'est très intéressant parce qu'on comprend comment ce grand chef réussit à construire la sonorité de son ensemble réellement sur la base du quatuor, sur l'équilibre du quatuor.
Et tout ça avec de jeunes musiciens, c'est bien ça, hein ?
Avec de jeunes musiciens, alors plus ou moins jeunes, oui, plus ou moins avancés dans la carrière, il faut pas se le cacher, par exemple on a pu entendre Alexandra Soum, je veux dire, elle est dans la carrière, je veux dire, elle joue partout, là elle était évidemment premier violon d'un quatuor et après premier violon de l'ensemble dans le, je crois, dans la pièce de Grieg. Tout le monde n'a pas le niveau et puis la finition de son violon. Mais c'est vraiment intéressant parce que justement, on peut comparer déjà des quatuors qui se forment et qui s'écoutent plus ou moins bien. Voilà, on a des musiciens en devenir dans une très belle acoustique, il faut le dire. Cette salle qui a été retravaillée acoustiquement par le cabinet de Nagata et qui fait vraiment des très belles choses.
Vous étiez aussi Rémi Louis.
Oui, c'est assez touchant de voir Seiji Ozawa aujourd'hui parce que il n'a rien perdu de son énergie. Même quand on l'a vu après le concert, il est toujours cette espèce de lutin assez facétieux avec ce visage
très mobile. 80 ans. Hein.
Il les aura en septembre,
c'est
je
ça,
crois.
Ouais.
Mais qui relève quand même d'un très grave cancer de l'œsophage et qui garde justement dans le souvenir de son propre maître de Hideo Saito, le violoncelliste, compositeur, pédagogue japonais, ce souci de la transmission. Et c'est vrai que finalement, les grands chefs, les très grands chefs de niveau international qui font cela sont assez rares. Donc le fait que la Fondation en effet Vuitton ait ce rapport particulier, d'abord ce lien avec l'Académie donc internationale, les séquences se tiennent à Rolle, donc à côté de Genève, mais donc il travaille avec eux, donc il va peut-être venir régulièrement. N'oublions pas qu'ils étaient déjà venus exactement dans le même type de présentation, des jeunes d'abord, ensuite Ozawa lui-même au Théâtre des Champs-Élysées déjà. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez touchant parce qu'en plus, ces musiciens, il y a effectivement Alexandra Soum qui a été en premier violon, mais après, ils changent tous de place. Il y avait à la fois du Beethoven et du Grieg, et on voit ceux qui étaient chefs de pupitre passent derrière. Ils étaient dans les premiers violons, ils passent au deuxième violon. Donc, il y a vraiment une espèce de famille musicale dont il est, on va dire, l'inspirateur et en même temps le protecteur, mais dans un sens extrêmement, agréable, immédiat.
Ouais, il y a de avec très grandes espèces.
Voilà,
toujours,
exactement, avec une très grande complicité.
Vous m'apportez un coffret tous les deux, là, enfin Benoît, que je vois, Seiji Ozawa, c'est quoi ce coffret Warner?
Alors c'est le coffret Warner, Seiji Ozawa en 25 disques, on accompagne vraiment la carrière de Seiji Ozawa depuis ses débuts, débuts avec les orchestres américains de Chicago, Boston, à partir de 69, et puis jusqu'à la maturité. C'est vraiment intéressant parce que c'est un chef qui arrive à faire sonner de manière assez différente, à rentrer dans la culture acoustique et sonore des orchestres, c'est-à-dire qu'il a en révélé à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes.
C'est pas un chef qui impose en fait son son.
Il fait sonner l'orchestre de Chicago, et il joue sur cette opulence, et quand il est ici au National, ici ou ailleurs, il va jouer sur autre chose, une couleur un peu plus légère, une couleur un peu plus française. Et c'est intéressant parce que je trouve en plus que le parcours d'œuvre est parfois assez original. Ça va de Bizet à Renaud Gagneux en passant par Brahms ou Tchaïkovski. Alors évidemment, c'est inégal. Sont rarement des disques qui se sont imposés en tête de discographie en chaque œuvre. Mais en revanche, je trouve qu'il y a une constance dans l'engagement, il y a une constance dans la souplesse de la direction, des phrasés, cette manière de sculpter aussi, avec les orchestres qu'il avait devant lui. Et c'est vraiment intéressant.
On va écouter ici un choix de Rémi Louis. Jeanne Deguin, c'est ça ?
Oui, avec le Philharmonique de Berlin. Thank you.
Tchaïkovski, l'ouverture de Eugène Onéguine était jouée par les membres du Philharmonique de Berlin, dirigé par Seiji Ozawa. C'est une réédition, donc un gros coffret Warner, parce que c'était enregistré par Warner, tout ça, c'est ça, hein, Rémi Louis?
Oui, non, ça c'est un côté un peu ridicule, enfin, de ces espèces de rachats permanents. Ouais. C'est que ce sont évidemment, il est merveilleux d'avoir fait ce coffret, éditorialement c'est remarquable, mais ce sont simplement les enregistrements EMI d'une part et Erato d'autre part. Donc ouais. Je veux dire, même si c'est sous rubrique Warner aujourd'hui, aucun problème. Comme le coffret Michelangeli, tout aussi remarquable qu'il vienne de sortir, redonnons à César ce qui est à César. Et c'est-à-dire parlons des labels
éditeurs originaux, bien sûr.
Tout à fait. Si on met The EMI Recordings et The Erato Recordings, tout le monde comprendra.
Ouais, Benoît.
Et redonnons à Rémi Louis ce qui est à Rémi Louis. C'est lui l'auteur de la notice. Faut quand même
d'accord.
Préciser. Ah oui.
Mais c'est pas lui qui a choisi le coffret aujourd'hui, c'est vous en même temps.
C'est moi.
Il vous a fait une petite enveloppe, non, peut-être pour
même
ça
pas, Même pas.
Attends,
nullement.
C'est que le coffret est vraiment bien. Alors, 25 disques pour résumer en quelque sorte la carrière de Seiji Ozawa, comme on l'aura compris. C'est donc chez Warner. Et vous êtes allé, Rémi Louis, écoutez, à Saint-Denis, vous allez voir tout plein de concerts là-bas, à la Basilique, pour le festival qui s'est déroulé tout au long du mois de juin. Je vais pas vous demander un résumé de tout ce festival édition 2015, oui, qu'on n'en sortirait pas. Il y en a eu beaucoup, mais en résumé quand même, est-ce que c'était un bon cru?
Très bon cru.
Oui.
Extrêmement bien. J'y ai été, je sais pas, 10-12 fois. Donc j'ai mon diplôme de Globetrotter, puisque j'ai passé le périphérique à de nombreuses reprises, il faut bien le dire. Et non, c'était vraiment très très remarquable, parce qu'évidemment, on a l'habitude à Saint-Denis, c'est une image de marque, bien sûr, c'est le fond de leur programmation, d'entendre le Requiem de Verdi ou le Requiem de Brahms, qui ont été donnés par les formations maison. Mm-hmm. Le Requiem de Brahms, encore hier soir avec Daniel Egatti. Mais là, ils s'orientent, en tout cas cette année, c'était particulièrement frappant. Il s'oriente vers des choses qui deviennent aussi plus théâtrales. Ouais. Et on a l'impression que le cadre de la basilique peut être quelque chose d'un peu contraignant pour ça. Et en fait, non, il y a ce spectacle qui s'appelait La Dernière Nuit, qui était d'ailleurs intitulé Concert théâtral, qui était une création, avec Jean Bellorini et puis Mathieu Koblenz, donc mise en scène et chorégraphie. Sur le plan musical, c'était Garcia Alarcón qui dirigeait ça, avec l'intervention d'acteurs, une scénographie, même une mise en scène de la parole des acteurs. Et voilà quelque chose qui a été très remarquable, et qui avait d'ailleurs aussi son écho dans La Route de l'Esclavage, qui est ces espèces de grands vaisseaux incroyables, qui sont à la fois historiques et esthétiques, que fait Jordi Savall quand il fait un mélange d'artistes, mais il fait un mélange intelligemment, il fait pas sa world music à lui tout seul. Il convoque sur la base de ce thème, qui est l'histoire terrible de l'esclavage, avec là aussi un récitant, qui était Bakary Sangaré, donc de la Comédie Française, et qui parle, effectivement, qui lisait des textes, certains d'ailleurs absolument, étreignants, terribles, mais dans lequel il convoque, effectivement, les interrelations entre qu'est-ce qu'a été la musique de toutes les populations africaines qui ont été donc complètement balancées, comme ça, vers le Nouveau Monde, et en même temps, comment leur culture est revenue après, ou a été réintégrée aussi par d'autres cultures, notamment la culture hispanique, évidemment, puisque c'est celle de Jordi Savall.
Donc un festival qui évolue, si je vois bien.
Qui évolue, et en même temps, on a des très très belles rencontres. Je n'ai pas pu l'entendre, malheureusement, mais il y avait Grosvenor qui jouait en sonate, violon, piano. Voilà, ouais. Donc ça, j'ai pas pu l'entendre. Mais une découverte, parce que sur le papier, j'étais un peu surpris. Renaud Capuçon et David Frey, en sonate, Beethoven et Bach, et c'était absolument remarquable. Mmh. Passionnant, avec une énergie incroyable. Donc c'est vraiment, ça va être, à mon avis, un duo à suivre. D'accord. Ils s'entendent extrêmement bien. J'ai eu parfois le sentiment que c'était un peu des mondes parallèles, mais en même temps toujours avec une connexion, donc admirable.
Ça à suivre, et puis le festival de Saint-Denis, ce sera pour la prochaine édition. Absolument. 2016, on suivra ça.
Non, c'était vraiment un grand cru.
Ah, j'ai bien compris, non, on a réellement compris ça. On va aller, si vous le voulez bien, vers quelques nominations, parce qu'il y en a eu cette semaine. C'était Marc Minkowski qui dirigeait ici ces musiciens du Louvre dans ce programme dont on se souvient bien qu'il a enregistré quelques années autour de Rameau, une symphonie imaginaire. Marc Minkowski dont on a appris donc hier soir la nomination à Bordeaux, à l'Opéra de Bordeaux. Ils étaient au moins 2-3 sur les rangs. Ça fait très longtemps que ça tournait. Richard Marté, c'est une nomination qui a quelque chose d'assez original puisque c'est un chef d'orchestre qui se retrouve à la tête d'un opéra.
C'est un chef d'orchestre qui se retrouve directeur général, ce qui est quand même assez rare parce qu'autant directeur artistique, directeur musical, par définition, ça doit être un chef. Oui. Directeur artistique, ça arrive. Directeur général, c'est très rare. Et surtout, d'emblée, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour Bordeaux. C'est vraiment d'abord une nomination qui va faire beaucoup de bruit. Des candidats restés en lice, c'était et de lui le plus connu. Donc, rayonnement international pour Bordeaux, ça va attirer le regard. Ça, c'est excellent. Moi, la question que je me pose, ça a été annoncé hier à 13h, j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé depuis. C'est comment ça va se passer avec Paul Daniel, puisque Marc Minkowski, chef d'orchestre nommé directeur général de l'Opéra de Bordeaux, va se retrouver avec un directeur musical en place depuis 2 ans, dont Marc Minkowski va devenir de facto le supérieur hiérarchique, quand même. Il va être le supérieur hiérarchique de Paul Daniel. J'imagine que, comme le nom de Marc Minkowski revenait pas mal, Sud-Ouest avait commencé à l'annoncer dès le 19 juin. Ah, oui. Donc je pense que le 19 juin, je suppose que Marc Minkowski et Paul Daniel se sont parlé. J'imagine qu'ils ont dû commencer avant. C'est pas évident sur ce plan-là quand même.
Benoît Fauché.
Oui, c'est un vrai pari. Alors c'est vrai que le choix est déjà un très joli coup pour Bordeaux, parce que c'est un des rares chefs français qui a un vrai renom international. Donc j'imagine que ça peut annoncer des coproductions avec des festivals ici ou là. Ça peut annoncer des opérations très originales autour de musiques anciennes qui sonnent admirablement bien, notamment au Grand Théâtre de Bordeaux. Alors, il a déjà annoncé qu'il maintiendrait en résidence l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon, ce qui est une bonne chose. La question qui se pose, c'est comment va s'articuler sa présence à la tête des musiciens du Louvre, qui pour l'instant sont à Grenoble. Est-ce qu'ils viennent à Bordeaux? À vrai dire, je n'ai aucune réponse sur tout ça. Est-ce qu'il va se mettre à diriger l'ONBA de temps en temps dans des programmes lyriques ou
symphoniques? L'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.
Voilà. Il y a beaucoup d'inconnus. Il a déjà dit qu'il travaillerait avec les directeurs artistiques en place, donc du ballet, les chargés de programmation, etc. On verra tout ça. Je pense que les choses vont se construire. Mais enfin voilà, moi je trouve que le coup est assez bien joué.
Nomination de Marc Minkowski, donc à Bordeaux. Et puis on apprenait juste quelques heures auparavant, presque, celle de Christian Tillmann à Bayreuth. Alors là, c'est une surprise parce que c'est un poste quasiment qu'on a créé pour lui. Je rêve, Rémi Louis.
Oui, il me semble que c'est la première fois qu'on entend parler d'un directeur donc musical du Festival de Bayreuth dans des périodes anciennes et parfois un peu sombres. On avait Heinz Tittin qui était à la fois metteur en scène, chef d'orchestre, patron des opéras de Berlin et qui a été aussi le directeur artistique du Festival de Bayreuth, donc les folles années 30 si j'ose dire. Mais là, alors c'est très curieux parce que comme ça intervient juste quelques jours, c'était déjà semble-t-il un peu dans le circuit. Tillmann a évidemment une forte présence à Bayreuth et admiré évidemment sur le plan international, mais c'est vrai que tout d'un coup on peut pas s'empêcher, c'est peut-être du mauvais esprit, de faire le rapport entre la nomination de Kirill Petrenko à Berlin, où on a quand même eu droit à ce qui est sidérant, où on a quand même eu droit à déjà à quelques réflexions antisémites dans les journaux, oui absolument, en Allemagne pas de 25 journalistes mais quand même il y en a une ou deux, et tout d'un coup que ce parangon de la grande culture allemande auquel beaucoup de gens pensaient justement pour dire il faut remettre le Philharmonie de Berlin un peu dans ses clous usuels, et bien du coup se retrouve à Bayreuth, ce qui est un autre lieu vraiment extrêmement fort par rapport à cette culture-là. Alors évidemment, la concomitance des deux événements pose question, mais peut-être avons-nous tort, je veux dire, il faut honnêtement le dire.
Il faut pas se le cacher, Christian Tillmann était déjà le directeur musical officieux de la Colline Verte. Alors, les mauvais esprits ont diffusé sur les réseaux sociaux, même avant l'annonce de son nouveau titre, la plaque de sa place de parking sur la colline où on voit déjà Musikdirektor, etc. Bon, peut-être que c'est des choses qui viennent être mises en place. Il était déjà l'homme fort de la fosse à Bayreuth.
Il l'a définitivement.
Maintenant, il a un nouveau titre. Bon, voilà, que les choses continuent, quoi.
Messieurs, on va refermer cette émission très rapidement. On va laisser ces problèmes de nomination de côté, si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous faites cet été? Juste en un mot, allez, vous avez 10 secondes chacun pour me dire où il faut aller absolument, ne pas oublier d'aller. Richard.
Alors moi, c'est deux festivals, Corégie d'Orange, Carmen avec Jonas Kaufmann.
Ah oui, ça m'aurait étonné, ça.
Ça vous étonne, je ne suis pas, vous le savez, un fan fou de Jonas Kaufmann.
Oh, quand même.
J'adore Jonas Kaufmann, je veux voir Jonas Kaufmann dans Carmen à Orange. Keith Aldrich, en plus, je l'aime bien en Carmen. Il y a Mikko Franck qui dirige, donc il y a plein de raisons d'y aller. Et deuxième chose, Festival de Peyralade en Catalogne.
Ah, vous allez tous les ans, là.
Où je vais tous les ans et où je vais voir un Othello électrisant avec Grégory Koundé, Carlos Alvarez et Eva Maria Westbrook. Sur le papier, du moins, ça part pour être exceptionnel.
Benoît.
Moi, j'aurais envie de dire aux auditeurs, en ces temps caniculaires, allez à la Meije. Dans ces hautes Alpes, en pleine altitude.
Pas à la neige, hein.
À la neige, voilà.
Les deux se confondent.
À la Grave. Voilà, la Grave dans les hautes Alpes, où il y a un festival consacré à Messiaen tous les ans. Et là, va être donnée la pièce Et Expecto Resurrectionum, dont on
de
fait
Messiaen,
le, voilà,
absolument.
De Messiaen, dont on fait le jubilé, qui sera donné en plein air, face au massif, à la montagne de la Meije. Je pense que ça sera un moment fort.
Messiaen, Pays de la Meije. Et vous, Rémi Louis, vraiment en un mot?
Oui, alors beaucoup de VTT, mais sinon Orange quand même, ce serait évidemment très 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 bien. Et quand même, pour les auditeurs, pensez à tous les festivals de musique de chambre qui existent, parce que la musique de chambre est souvent pas si bien traitée que ça. Oui. On n'en parle pas toujours beaucoup, et il y a pendant l'été beaucoup de festivals
absolument
de musique de chambre,
qui
par exemple
Lampéry
ou Prades, absolument, il y en a plein. Mais il faut vraiment faire attention à ça.
Vous m'en voulez si je vais avec ce mois? Bah non, vous m'en voulez pas quand même. Patricia Petitbon chantait un extrait d'Assis Ségalaté chez de Handel, dirigé par William Christie. On la retrouvera, Patricia Petitbon, à Aix-en-Provence, dans Alcina. Merci à mes zozos du jour qui ont bien voulu animer aujourd'hui ce tout dernier casque de la saison. Richard Marté, Benoît Faucher, Rémi Louis, merci à tous les trois. Et à l'équipe qui était avec moi aujourd'hui, Françoise Monteil, Antoine Courtin, Adeline Omello et Victor Buton.